Alors on y va. Je suis donc chargé aujourd'hui d'introduire au mystère de la beauté. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi parler de la beauté alors que la beauté est une expérience que nous faisons tous de manière spontanée? C'est avant tout essentiellement une expérience. Alors pourquoi y ajouter des mots sur cette beauté? Mais comme on m'a demandé de parler, je parlerai pendant une heure. C'est limité. Et c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement multiforme, insaisissable, que je vous avoue que j'ai eu du mal de réduire ça à une heure. C'est un peu comme si on essayait de mettre l'océan Atlantique ou Pacifique dans une petite bouteille, un demi-litre. Mais quand même, allons-y. Je vous parlerai de la beauté dans trois approches, trois grandes parties. Tout d'abord, l'énigme, le mystère de la beauté. Qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, la beauté de Dieu. Et troisièmement, j'espère y arriver, l'art sacré, la beauté dans l'art sacré. Et je m'aiderai de grands spirituels ou de grands écrivains ou de philosophes ou de pères de l'Église qui ont parlé de la beauté. En particulier Dostoïevski, dont les personnages, vous le savez, voyagent entre deux abîmes, l'abîme de la beauté, d'une part, le sublime, et l'abîme du mal, de la déchéance, du meurtre, du sang, de l'autre côté. Dostoïevski, dans Les Possédés, dit ceci, écrit ceci. Savez-vous que l'humanité peut se passer des Anglais, qu'elle peut se passer de l'Allemagne, que rien ne lui est plus facile que de se passer des Russes? Heureusement, il ne parle pas des Belges. Qu'elle n'a pas besoin de vivre, pour vivre, de science, ni de pain. Mais seule la beauté lui est indispensable. Car sans la beauté, il n'y aurait rien à faire dans ce monde. Là est tout le secret, toute l'histoire. Et dans L'Idiot, un autre livre, il écrit « La beauté sauvera le monde ». Alors, question... Que signifie cette affirmation forte, la beauté sauvera le monde, pour nous chrétiens qui affirmons, croyons et proclamons que c'est le Christ qui sauve le monde? Est-il contradictoire d'affirmer que cette beauté sauve le monde alors que l'humanité est le Christ est le sauveur de notre humanité? Nous tenterons de répondre à cette question dans la suite de l'exposé. Je la passe pour l'instant et... Je nous pose une autre question fondamentale. Qu'est-ce que la beauté? Il serait intéressant, si nous avions tout un week-end, de laisser la parole ici à chacun pour s'exprimer. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas, donc je continue. Peut-on définir la beauté? Peut-on la saisir? Existe-t-il des critères qui permettent de distinguer ce qui est beau de ce qui ne l'est pas? Nous savons que la notion de beauté est profondément influencée par la culture de chaque peuple, son histoire, le contexte. Et donc, la notion de beauté peut varier effectivement dans le temps et dans l'espace. Mais nous savons aussi qu'il y a des beautés non contingentes, des beautés éternelles, des beautés évidentes. Certains êtres sont beaux, certaines choses sont belles, certains gestes aussi, certains actes. Beau, ne parle-t-on pas d'un beau geste? Quelle que soit la culture de celui qui perçoit et contemple. Pensons par exemple à la beauté d'un visage. la beauté d'un regard, la beauté du ciel étoilé, des galaxies, des constellations, la beauté de certaines œuvres d'art, d'un arbre majestueux, des montagnes. Et Thérèse, je pense, l'après-midi, nous parlera de cette beauté du créé, du monde créé. Mais aussi la beauté d'une musique sublime, d'une statue de Michel-Ange ou d'une statue grecque, d'une peinture extraordinaire, d'un poème, d'une danse. Mais aussi la beauté d'un geste de compassion, la beauté du baiser de Saint François qui embrasse les lépreux, la beauté de Mère Teresa qui soigne un enfant à l'agonie. Et comment donc approcher de cette beauté éternelle non contingente qui fait l'unanimité de manière spontanée, qui suscite une admiration universelle au-delà de tout critère culturel? Eh bien, cette question, vous le savez sans doute, hante la réflexion philosophique depuis 2500 ans, depuis Platon exactement. Et nous ne pouvons pas définir la beauté, mais nous pouvons poser autour d'elle, comme dans une constellation, un certain nombre de mots qui approchent de cette notion de beauté. Par exemple, Platon y accole le bien et la vérité, le beau, le bien, le vrai. Ou alors la plénitude, ou encore harmonie, mesure, plaisir, émotion positive, bouleversement de l'être, de l'âme, ou encore élan, désir, ou encore présence. Je vous ai dactylographié quelques citations, je ne vais pas vous les lire ici, ce serait un peu fastidieux. Vous les trouverez sur la table du fond pour ceux que ça intéresse. Je vais simplement reprendre deux citations. La première est de Paul Evdokimov dans le livre « Théologie de la beauté ». Voici comment il aborde la chose. « Le beau est présent dans l'harmonie de tous ses éléments et nous place devant une évidence indémontrable et qu'on ne peut justifier qu'en la contemplant. Le beau vient à notre rencontre, se fait intime, proche, apparenté à la substance même de notre être. Nous en sommes saisis sans même pouvoir trouver des mots poétiques adéquats à notre bouleversante expérience, car cette expérience ne relève pas de la raison, mais du cœur. Nous communions avec la beauté d'un paysage, d'un visage, d'une poésie, comme nous communions avec un ami, et nous ressentons une étrange consonance avec une réalité qui nous semble être la patrie de notre âme perdue et retrouvée. » Voilà quelque chose de magnifique. La beauté est la patrie de notre âme perdue et retrouvée. La deuxième citation est de François Cheng dans « Cinq méditations sur la beauté ». La beauté, écrit-il, est quelque chose de virtuellement là, depuis toujours là, un désir qui jaillit de l'intérieur des êtres ou de l'être, telle une fontaine inépuisable, qui se manifeste comme une présence rayonnante et reliante, laquelle incite à l'acquiescement, à l'interaction, à la transfiguration. Elle relève de l'être et non de l'avoir. La vraie beauté ne saurait être définie comme instrument ou moyen. Par essence, elle est une manière d'être, un état d'existence. Nous sommes, nous les êtres humains, hantés par la beauté. Elle n'est pas un luxe, elle nous est indispensable pour vivre. Nous la recherchons sans cesse, même de manière inconsciente. Elle est une nourriture vitale pour nous. Dostoïevski toujours écrit « Si l'on venait à priver les humains de l'infiniment grand, ils ne voudraient plus vivre et mourraient de désespoir. L'incommensurable et l'infini sont aussi nécessaires à l'homme que la petite planète sur laquelle il vit. » Et sans doute cette soif de beauté qui nous habite fait-elle heureusement contrepoids à la misère du monde, à sa laideur, à la violence, au mal qui ronge l'humanité. Et nous sommes donc comme les personnages de Dostoïevski, mais peut-être de manière moins expressionniste, heureusement, parce que si on vivait dans un roman de Dostoïevski, on aurait toutes les couleurs. Nous sommes donc entre ces deux pôles, ces deux domaines, ces deux abîmes que sont d'une part le mal, d'autre part la beauté. Citation de François Schenk à ce propos, je trouve très, très profonde. Je suis persuadé que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les deux extrémités de l'univers vivant. D'un côté le mal, de l'autre la beauté. Le mal, la beauté, ce sont là deux défis que nous devons relever. Je sais qu'il me faudra tenir les deux bouts. En ne traitant que l'un et en négligeant l'autre, ma vérité ne sera jamais valable. Je comprends d'instinct que sans la beauté, la vie ne vaut probablement pas la peine d'être vécue. Et que d'autre part, une certaine forme de mal vient justement de l'usage terriblement perverti de la beauté. Il fait ici allusion, mais je ne le développerai pas, c'est un grand sujet, à la beauté sans âme, la beauté dévoyée, la beauté qui a l'apparence de la beauté et qui en réalité cache le mal, ce que certains ont appelé la beauté du diable. Vous savez qu'un des noms du diable est Lucifer, le porteur de lumière, et que les pères du désert, certains pères disent que le diable leur est apparu sous la forme du Christ. Donc la beauté peut être détournée de sa profondeur, de son but. C'est une beauté sans bonté, sans amour. Une beauté purement extérieure qui est une caricature de la véritable beauté. Je ferme la parenthèse, quoique cette parenthèse pourrait durer quelques heures. Comment aborder cette réalité multiforme, inestimable, insaisissable, cette perle précieuse, et qui pourtant est très concrète? La beauté, c'est concret, nous la côtoyons tous les jours, elle nous entoure. Une approche possible et éclairante, me semble-t-il, c'est de partir de l'anthropologie fondamentale de notre tradition. Notre tradition dit que nous sommes constitués, vous le savez, de trois domaines, de trois aspects, qui sont le corps, l'âme, l'esprit. Trois aspects qui sont interpénétrés, bien que distincts. Je vous conseille à ce propos les beaux livres de Michel Fromager, que vous connaissez sans doute pour certains d'entre vous, Corps, âme, esprit. Il explique ça de manière extraordinairement profonde en le comparant d'ailleurs aux autres anthropologies, d'autres traditions. Alors, comme vous le savez, le corps de l'homme, pas besoin de grandes explications, c'est sa part matérielle et sensible. Et les organes de perception sont nos sens, bien sûr. L'âme est la partie qui est moins connue en Occident, en tout cas moins repérée comme telle, c'est la part psychologique immatérielle de l'homme. Elle est faite de pensées, d'idées, de sentiments, d'émotions, de souvenirs, d'intentions, d'imagination, d'intelligence. Et donc c'est donc la perception, la mémoire, le sentiment et l'intelligence qui sont les organes de l'âme. Et troisièmement, le monde spirituel, notre esprit. Notre esprit, qui, bien plus que l'âme encore, est méconnu de la plupart de nos contemporains, bien qu'ils le portent en eux. Cet esprit, c'est notre boussole intérieure, notre chambre intime, dans laquelle se fait la rencontre avec Dieu. Rappelez-vous ce beau passage de l'Apocalypse, quand le Christ dit qu'il frappe à la porte de notre chambre intérieure, ou quand il transmet le Notre Père à ses disciples et qu'il dit « Retirez-vous dans votre chambre intérieure », c'est-à-dire dans votre esprit. Eh bien, nous pouvons contempler trois types de beauté qui s'offrent à nous. La beauté du monde matériel, du corps humain, de la nature, dont Thérèse va nous parler tout à l'heure. La beauté de l'âme et de ses œuvres. Et les œuvres de l'âme sont multipliées à la pensée, la science, l'art. Et la beauté de l'esprit, qui est une beauté contemplative, une beauté qui tend à la communion. Dans la Bible, nous trouvons ces trois niveaux de la beauté, celle de la matière, de l'âme humaine et de l'esprit, la beauté spirituelle. Dès le départ, dès la Genèse, Ce qui nous frappe, c'est la beauté de la création, et en particulier le cri de joie, le cri d'enthousiasme de Dieu qui s'écrit, comme les Bruxellois, c'est Tov. Et Tov, dans la Bible des Septante, on le traduit souvent, donc Tov, par le mot, c'est Dieu vit que cela était bon. Ça, c'est les traductions habituelles dans nos Bibles. Mais si on remonte à la Bible des Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de la Bible hébreu, nous ne trouvons pas le mot agathon, qui signifie bon, nous trouvons le mot kalon, le mot grec kalon, qui signifie beau. Et donc Dieu s'écrit que cela est beau à chaque jour de la création. Et l'Ancien Testament est totalement rempli de cet émerveillement de l'homme devant la magnificence, la merveille de la création, en particulier les psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Tes œuvres sont merveilleuses, Seigneur. Mon âme se plaît à les publier, etc. Mais cette beauté de la matière, du cosmos et de l'homme est toujours, dans la Bible, mise en relation avec l'œuvre créatrice de Dieu, avec sa bonté et avec la relation amoureuse qu'il noue avec sa créature, c'est-à-dire nous. Dieu est littéralement amoureux de l'homme. Et le plus beau passage de la Bible qui chante cet amour réciproque, d'ailleurs, vous le savez, c'est le Cantique des Cantiques. Je ne résiste pas à vous lire quelques extraits significatifs de cet amour, qui est un amour non seulement physique, mais avant tout un amour spirituel, une communion de deux êtres. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable, réponse de l'homme à Dieu. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tu es toute belle, mon ami, en toi il n'y a point de défaut. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Qu'a mon bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre mille. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait. Et on peut continuer, je vous invite à relire ce merveilleux poème d'amour entre Dieu et sa créature. Qui pourrait mieux chanter la beauté de l'amour qui nous unit à Dieu que ce merveilleux cantique? Pour les êtres religieux que nous sommes, l'origine de la beauté ne se trouve pas dans la matière, dans la création, mais elle vient de Dieu, qui est considéré comme l'artiste suprême, l'artiste avec un grand A, le premier, la source de toute beauté, de tout art qui procède uniquement de lui. Comme l'écrivait Mgr Jean, le sens cosmique dans la pensée divine, c'est l'embellissement, un travail progressif pour atteindre la beauté définitive. L'existence et l'utilité ne sont pas suffisantes à la création. On pourrait se dire, il suffit d'exister, de fonctionner, d'être utile, c'est déjà pas mal. Non, la création est soulevée par un mouvement d'ascension vers la beauté. Dieu est l'artiste unique. Et ceci n'est pas une envolée théologique ou mystico, je ne sais quoi, c'est tout à fait confirmé par la science actuelle qui montre que la montée du vivant par des cellules les plus simples, les plus élémentaires, vers la complexité. Et qu'à chaque niveau de complexité s'ajoute un élément de beauté. Et que le tout est plus que la somme des parties. Si donc le cosmos est si beau, la nature si belle, et nous si beaux, c'est parce que Dieu les a créés, nous a créés. Et si nous sommes beaux, si sensibles à la beauté, c'est parce que nous sommes l'image de Dieu. Et nous avons pour vocation de devenir beaux, de plus en plus beaux, sous les mains amoureuses du Créateur, de l'artiste divin. Il y a à ce sujet un merveilleux texte de saint Irénée que je ne résiste pas au plaisir de vous lire, que vous trouverez dans les feuilles. Ce n'est pas toi qui te fais Dieu, mais Dieu qui te fait. Si tu es l'œuvre de Dieu, attends patiemment la main de ton artiste qui fait toutes choses en temps opportun. Présente-lui alors un cœur souple et docile et garde la forme que t'a donnée cet artiste, ayant en toi l'eau, c'est-à-dire l'esprit, qui vient de lui. En gardant cette forme, tu monteras à la perfection, car par l'art de Dieu va être cachée l'argile qui est en toi. Sa main a créé ta substance, elle te revêtira d'or pur au-dedans et au-dehors, et elle te parera si bien que le roi lui-même sera épris de ta beauté. Voilà, un texte à afficher dans notre cuisine ou ailleurs, pour nous donner le moral chaque matin. Et donc la beauté dont l'homme est revêtu et qui l'entoure de toutes parts est un des visages de Dieu et de l'amour divin. Saint Grégoire Palamas disait « La beauté vient d'en haut ». Et Saint Denis l'Aréopagite, « Dieu nous accorde de participer à sa propre beauté ». Et Simone Veil, plus proche de nous, écrivait dans « La pesanteur et la grâce » « Dans tout ce qui suscite en nous le sentiment de la beauté, il y a réellement la présence de Dieu. Il y a presque une incarnation de Dieu dans le monde dont la beauté est le signe. » Et cette phrase que je trouve vraiment magnifique. « La beauté, c'est le sourire de tendresse du Christ à travers la matière. » Ça, vraiment, c'est magnifique. Et cette beauté n'est pas que celle du Christ, c'est évidemment celle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La beauté trinitaire qui rayonne dans une communion d'amour telle que nous pouvons la voir sur la merveilleusement belle icône d'Andrei Rublev. Beauté de la Trinité, mais revenons-y, beauté du Christ. Car la beauté divine n'est pas abstraite, lointaine, purement transcendante. Nous venons de le rappeler, elle se manifeste d'abord dans la matière, dans toute la matière, dans la nature, dans le cosmos. Mais elle s'incarne aussi très concrètement pour nous, hommes, comme nous disons dans le Credo, dans le visage du Christ, que nous appelons dans un chant de l'Ascension le plus beau parmi les fils de l'homme. Et Dostoïevski, encore lui, s'écrit « Il n'y a pas, et il ne peut y avoir rien de plus beau et de plus parfait que le Christ. » Et pourtant, nous chantons à la Semaine Sainte, « Nous l'avons vu sans éclat ni beauté, tant son visage était défiguré. » Cela nous montre que la beauté du Christ n'est pas une beauté extérieure, esthétique, mais la beauté de l'amour en acte, de l'amour de celui qui s'abaisse par amour de l'homme, qui s'humilie par compassion. Et comme l'écrit Paul Evdokimov, c'est l'infirmité même du Christ qui devient belle. C'est tout le mystère de la kénose. Et nous retrouvons ici cette question que je posais au tout début de l'exposé. Comment la beauté sauve-t-elle le monde si c'est le Christ qui sauve le monde? Réponse, parce que si l'on va au-delà des apparences, notre tradition chrétienne nous enseigne que la beauté qui sauve le monde est celle du Christ, celle de l'amour crucifié, celle du pardon, celle de la miséricorde, celle de la bonté. En véritable amant, Dieu crée l'univers et la beauté s'incarne et meurt d'amour, écrit Nicolas Cabasillas. Et voici un commentaire que j'ai trouvé sur Internet. On trouve de tout, comme vous le savez, et de très bonnes choses sur Internet, sur un site qui s'appelle le site de Fiodor, par hommage à Dostoïevski, dont c'était un des prénoms. Voici ce qu'est écrit ce Fiodor. Serait-il déplacé de comprendre la phrase « La beauté sauvera le monde » comme « Le Christ sauvera le monde » C'est lui le Christ, le Sauveur. C'est lui le plus beau des enfants des hommes, psaume 44, venu rendre à l'homme sa première beauté. La beauté authentique ouvre le cœur humain à la nostalgie, au désir profond de connaître, d'aimer, d'aller vers l'autre, vers ce qui est au-delà de soi. Ainsi comprise, et nous pouvons penser que c'est ainsi que Dostoïevski la comprend, la beauté est inséparable de la bonté. La beauté est celle de Dieu en qui vérité, bonté et beauté se confondent. Celui qui fait quelque chose de bien fait en même temps quelque chose de beau. Ne dit-on pas d'une bonne action, un beau geste? Finalement, la beauté doit sauver le monde, c'est en tant qu'elle tourne le regard vers la création nouvelle, là où seul le Sauveur peut nous conduire. Et nous voyons donc ici au passage que Platon, 5 ou 6 siècles avant le Christ, a eu cette intuition géniale de ne pas séparer la beauté de la bonté, de la vérité, qui sont incarnées dans et par le Christ. Venons-en maintenant à une partie un peu plus concrète. Nous allons aborder l'art sacré, la beauté dans l'art sacré. Vous serez d'accord avec moi, je pense, sur le fait que l'art est avec la nature et la bonté un des meilleurs chemins d'accès à la beauté. Mais pourtant, il faut faire quelques remarques pour distinguer les choses. D'une part, il existe 2 courants artistiques fondamentaux que l'on qualifie l'un d'art profane, l'autre d'art sacré. Et d'autre part, on peut constater à notre époque de manière très curieuse que l'art ne célèbre pas toujours la beauté, très loin de là. Je vais développer ça dans quelques instants. Art sacré, art profane. Dans les sociétés dites traditionnelles, l'art, vous le savez, est toujours mis en relation avec le monde divin ou avec une vérité supérieure qui le dépasse. Par exemple, le cosmos. Et l'artiste, dans une société traditionnelle, est donc un intercesseur entre l'homme et le divin, ou entre l'homme et le cosmos. L'artiste montre, met en scène une vérité supérieure qui le dépasse. Par exemple, écrit Luc Ferry dans Le sens du beau, dans l'Antiquité, il s'agissait de dire la vérité dans l'art, et c'était d'abord exprimer l'harmonie du cosmos. Les Grecs sont hantés par l'harmonie, harmonie du corps humain, harmonie du cosmos. Et à l'ère des religions monothéistes, poursuit-il, la grandeur et la sublimité du divin, voilà ce qui est mis en scène dans l'art sacré. Et dans un tel contexte, là, l'œuvre doit donc avoir une objectivité, car elle exprime moins l'inspiration subjective de l'auteur, de l'architecte, du sculpteur, que l'ordre divin ou cosmique. Tout différent est l'art moderne et contemporain, qui se libère, lui, de toute référence à une vérité extérieure tenue pour supérieure, que ce soit le cosmos ou la divinité. Il s'agit à présent d'exprimer non plus la vérité de ce qui nous dépasse, mais la vérité de l'artiste lui-même, c'est-à-dire sa subjectivité, son talent, son originalité, et même ses passions, et même sa perversion, ses angoisses. Donc nous avons assisté depuis quelque temps, 1 ou 2 siècles, à un processus de sécularisation et de désacralisation de l'art. J'avais passé tout un... Je ne sais pas si j'avais le temps, oui, ça se termine en 11h30. Hein. Bon, alors je peux ne pas passer ce passage. Dans l'art traditionnel, qui est imbibé de la notion de sacré, comme je viens de vous le dire, l'artiste tend vers une beauté objective, considérée comme un reflet d'un monde divin. Dans l'art sacralisé, la notion de beauté est devenue subjective et donc fonction, finalement, des goûts de chacun. Oui. Ah bon, ah oui, désacralisé, merci. en fonction des goûts de chacun, des courants culturels, de la mode, des tendances, des écoles, et surtout de la volonté de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, d'original, en faisant souvent table rase de ce qui a, précédé. Et donc, on peut même aller jusqu'à choquer, vouloir choquer, ébranler, scandaliser le spectateur, provoquer des réactions de peur, de rejet, de dégoût, de révolte. Nous sommes très loin ici de l'art sacré. Vous avez peut-être mis les pieds dans une exposition d'art contemporain, tout à fait contemporain, qu'on appelle souvent des installations. On installe, je dirais presque n'importe quoi, de façon à ce que ce soit fort, choquant, que ça, ça provoque une réaction. Par exemple, une fois, on était avec des amis dans une exposition d'art contemporain, et dans le hall d'entrée, je me dis, mais enfin, ils auraient pu faire le ménage. Il y avait là des caisses en plastique, empilées les uns sur les autres, presque des poubelles. Je me suis dit, c'est quand même incroyable. Ils n'ont pas, les techniciens de surface n'ont pas eu le temps de passer. Et puis, je vois qu'il y a une étiquette. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais si vous jetez des caisses ou des poubelles dans votre hall d'entrée, vous pouvez dire, c'est une installation. Je ne dis pas que tout l'art contemporain est de ce niveau-là, bien entendu, bien loin de là, bien sûr. Mais c'est considéré à notre époque comme de l'art, et nous sommes très très loin de la sacralisation ou de l'art sacré. François Cheng écrit à ce propos-là, jusqu'au début du XXe siècle, la création artistique fut placée sous le signe du beau. Célébrer la beauté, la révéler, créer du beau. Mais plusieurs facteurs se sont conjugués pour changer cette donne. La laideur des grandes villes, l'idée de la mort de Dieu, l'effondrement de l'humanisme. Et tous ces éléments ont bouleversé la conception traditionnelle de l'art. Par une sorte d'expressionnisme généralisé, la création artistique entend avoir affaire à toute la réalité des vivants et à tout l'imaginaire de l'homme. Et ici, je trouve que ça devient intéressant. Parce qu'on peut jeter alors un autre regard sur l'art contemporain qui n'exprime plus simplement la beauté, mais qui exprime le vivant dans toute sa réalité, belle et laide. Une création artistique digne de ce nom, écrit-il, dévisageant tout le réel, se doit d'exprimer deux desseins. Elle doit certes exprimer la part violente, souffrante de la vie, ainsi que toutes les formes de perversion que cette vie engendre, mais elle a également pour tâche de continuer à révéler ce que l'univers vivant recèle de beauté virtuelle. Chaque artiste, en somme, devrait accomplir la mission assignée par Dante, explorer à la fois l'enfer et le paradis. Je trouve que cette approche est vraiment profonde. Alors revenons maintenant à l'art sacré, qui est celui qui nous concerne aujourd'hui, nous chrétiens, qui sommes réunis dans cette chapelle pour prier, contempler, méditer, célébrer Dieu. L'art sacré, vous le savez sans doute, remplit trois fonctions au moins. Et toutes trois sont intimement liées à la beauté. D'une part, il se veut reflet de la beauté divine. Nous en reparlerons en particulier avec l'icône. D'autre part, il est conçu, l'art sacré, comme une prière, une offrande, un pont qui nous relie à Dieu, à qui nous offrons le meilleur de nous-mêmes. Et enfin, il tend à nous transformer, consciemment ou non, par un contact avec une beauté qui nous dépasse et qui est d'ordre spirituel. Vous savez qu'en Occident, la période qui correspond le plus, qui a connu l'art sacré à son apogée, c'est le Moyen-Âge. Et en particulier, l'ordre de Cluny. Les moines de Cluny ont porté la beauté jusqu'au point sublime, à tel point qu'à un moment donné, c'est tombé dans l'excès, et il y a eu des réactions, notamment les moines cisterciens, avec Saint Bernard. Encore un Bernard. Et voici ce qu'écrit à ce propos-là Michel Fromager. Ce sont les pères, donc les pères, la pensée des pères de l'Église, ce sont les pères qui expliquèrent aux moines de Cluny cette vocation profonde de l'art, qui est de faire communiquer les mondes spirituels et matériels. En produisant des œuvres dont la beauté se manifeste comme effloraison sur terre d'une beauté qui est au ciel et qui est en Dieu. Que cette beauté se donne à entendre dans la pureté ou l'élévation d'un chant, ou bien à voir dans l'élégance d'une enluminure, l'éclat coloré d'un émail ou d'un vitrail, l'or d'un ciboire, la perfection d'une sculpture, etc. La beauté comme reflet du monde invisible, comme fenêtre ouverte sur le monde spirituel. Le secret le plus précieux de l'esthétique médiévale est dans cette mystérieuse faculté de transformation, d'élévation et de perfection de l'homme. Faculté inhérente à la beauté qui vient de Dieu et qui, de reflet en reflet, descend du monde spirituel jusqu'au monde sensible. Ce secret, c'est celui de l'amour. Car c'est bien lui que l'expérience de la beauté éveille dans le cœur humain. Œuvres d'art sacrées qui sont autant de fenêtres ouvertes sur le monde, autant de fenêtres ouvrant le monde naturel sur le monde spirituel. Autant d'ouvertures permettant à la splendeur qui émane de Dieu de descendre dans le monde terrestre, afin d'y éveiller, ça c'est important, fonction d'éveil de l'art, d'y éveiller les hommes à l'amour et de les élever ainsi jusqu'au monde spirituel qui est leur véritable patrie. Nous sommes ici, écrit toujours Michel Fromager, aux antipodes des fonctions émotives, pédagogiques ou simplement décoratives que l'art a le loisir d'assurer. Le seul art qui exista pour les artistes byzantins, carolingiens, romans, c'est encore le cas des iconographes ou des liturges à notre époque, est celui qui, à la faveur du silence et de la paix intérieure, du recueillement et de la contemplation qu'il provoque, métamorphose l'homme en profondeur et l'éveille ainsi au monde spirituel. Je trouve que l'essentiel de ce qu'est l'art sacré est décrit dans cette longue citation, et en particulier cette fonction d'éveil et de transformation qu'il opère en nous. Venons-en maintenant de manière encore plus concrète à la beauté du temple, de la liturgie, du chant et de l'icône. Puisque la beauté ainsi perçue est fondamentalement une manifestation du divin, et une recherche de Dieu, vous voyez, ça va dans les deux sens, Dieu se manifeste et nous le cherchons à travers la beauté. Une prière, une offrande, un instrument de transformation, il apparaît bien sûr que l'art dans l'Église doit exprimer cette beauté par la beauté du temple, la beauté des gestes liturgiques, la beauté des textes, la beauté des chants, la beauté des icônes, qui doivent plutôt nous éveiller et nous relier au monde invisible. Peut-on imaginer célébrer Dieu et nourrir la prière des fidèles avec des icônes ou des images laides, des chants cacophoniques, des gestes désordonnés, grotesques, une église sale, des textes plats, à ras des pâquerettes et sans âme, bien que les pâquerettes soient très belles? Quelques expressions de la beauté liturgique. D'abord le temple. Le temple, dans lequel nous sommes d'ailleurs, n'est pas une pièce ordinaire, mais un espace sacré. Et comme tel, il est organisé selon une structure précise, et meublé, décoré avec des objets spécifiques. Le temple représente, vous le savez certainement, le cosmos en réduction. Et son archétype, c'est la Jérusalem céleste décrite par l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc tout dans le temple est ordonnancé de manière très précise autour d'un symbolisme qui a pour vocation de rendre visible, perceptible, des réalités invisibles. On n'insistera jamais assez sur l'importance du symbolisme dans l'Église. Le symbolisme, c'est le vecteur du sacré, celui qui nous met en contact avec le sacré, qui, à travers des choses visibles, nous relie à des choses invisibles. Evdokimov écrit dans La théologie de la beauté, « Quand l'art oublie la langue sacrée des symboles et des présences, le souffle du transcendant ne le traverse plus. » Nous avons tous éprouvé ça dans des lieux prétendument sacrés qui ne le sont plus du tout, qui sont vraiment désacralisés, qui sont moches, qui sont contraires à la symbolique fondamentale que nous portons en nous. Ce symbolisme dans le temple se manifeste de multiples façons, par exemple dans des matières, des tissus, des couleurs. Vous savez que chaque temps liturgique a sa couleur. Ou bien dans des matières comme l'eau, l'encens, l'huile, le pain, le vin. Il se manifeste le symbolisme aussi dans des objets précis, tels que la croix, l'autel, les portes saintes, l'ambon dont on lit l'évangile, les icônes, mais aussi dans des formes architecturales. Quand on peut faire les choses de la meilleure manière possible, et on le voit dans les églises romanes, nous voyons qu'une église, c'est un ensemble de carrés, de cercles, de cubes, de sphères, de voûtes, de marches, de rapports géométriques, sous-tendus souvent par ce qu'on appelle le nombre d'or, c'est-à-dire une certaine proportion que connaissent les architectes au Moyen-Âge. Le symbolisme se manifeste aussi dans une topographie stricte du temple, l'orientation ouest, est, orient, occident. On en parle beaucoup dans le baptême. À présent, tourne-toi vers l'orient, car de l'orient vient la lumière. Donc c'est censé, là-bas, être l'orient symboliquement, même si ça n'est pas. Je ne sais pas, Bernard, quelle est l'orientation ici. C'est le contraire. Mais dans une église traditionnelle au Moyen-Âge, vous savez qu'on commençait par tracer sur le sol l'orientation fondamentale de l'église, orient-occident, et la croix. Et donc nous avions le narthex, la nef, où se tiennent les fidèles, et le Saint-Esprit, avec l'abside, la porte de l'Orient, d'où figure le Christ, où trône le Christ, et où il est censé revenir au moment de la parousie. Et donc le temple, par la présence de ses objets, son symbolisme, sa proportion, son décor, doit être beau pour faire pénétrer le fidèle, en dehors même de tout office, de toute célébration, dans un espace sacré qui le porte au recueillement, à la prière, à l'éveil. Je vous recommande à ce sujet deux très beaux livres de Jean Hanni. Jean Hanni était, maintenant je crois qu'il est bien mort, c'était un professeur en France, à Nanterre je crois, qui a écrit « Le symbolisme de la liturgie » plutôt « La divine liturgie » et « Le symbolisme du temple ». Il décrit tout ça de manière magnifique et très profonde. Donc Jean Hanni, H-A-N-I. Et on raconte à ce propos une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, en tout cas si elle n'est pas vraie, comme on dit, elle est bien trouvée. Donc, elle est significative justement de ce dont je vous parle. Une anecdote qui se rapporte au prince Vladimir de Kiev, qui a vécu à la fin du Xe siècle, qui, en homme intelligent qu'il était, se dit « je voudrais embraser une des religions existantes, soit juive, soit musulmane, soit chrétienne, soit hindoue. » Et il envoie des émissaires un peu partout, notamment à Constantinople. Et revenant de leur mission de Byzance, les messagers ont rapporté à Vladimir combien ils avaient été bouleversés par la beauté de l'église Sainte-Sophie et des célébrations qui s'y déroulaient. Et suite à ce témoignage, la tradition raconte que le prince Vladimir a décidé de se faire chrétien, parce qu'il était subjugué par la beauté de ses envoyés. Je ne sais pas si tu connaissais l'histoire. Parlons maintenant d'autre chose que le temple lui-même, c'est-à-dire les gestes liturgiques, les gestes d'oraison. Ils sont nombreux. Gestes des mains levées, les signes de croix, les bénédictions, les inclinaisons, les prosternations, les processions, la station debout. Chaque geste a un sens symbolique précis, hein, soit un geste d'offrande ou de prière, de repentir, de vénération, de respect, de réception. Et il place donc les gestes placent le célébrant et les fidèles dans un état de réceptivité, de disponibilité à l'action liturgique auquel ils participent. Inutile de souligner à nouveau que ces gestes doivent, pour bien faire, être accomplis avec conscience, conscience de leur intégration dans l'action liturgique, dans l'Église en prière. Et donc ces gestes ne peuvent pas être les désordonnés, frénétiques, ni accomplis de manière mécanique. Si vous accomplissez un geste de manière mécanique, surtout ne le faites pas tant que vous n'avez pas saisi l'importance ou la valeur ou le sens du geste que vous accomplissez dans l'Église. Surtout ne le faites pas parce que les autres le font. Je me souviens qu'au début, ma première liturgie ou mes premières liturgies orthodoxes, je voyais les gens s'incliner, faire des signes de croix. Je me disais, oh, quelle horreur! J'avais l'impression d'être chez les pygmées, que tout le monde faisait des gestes comme ça, dont je ne percevais pas vraiment le sens. Et mon être se raidissait contre ces gestes. Jusqu'au jour où je me suis dit, allez Marc, lâche-toi. Et je me suis mis à m'incliner et j'ai senti en moi quelque chose qui se débloquait. Donc le geste extérieur peut grandement aider à la prière intérieure, à l'éveil. Troisième domaine, et puis je vous parlerai du quatrième, j'en aurai terminé, je suis content, je suis dans les temps, c'est le chant liturgique. Vous savez que la musique liturgique n'est pas n'importe quelle musique, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement codée, c'est une musique traditionnelle, comme d'ailleurs l'icône et d'autres éléments de l'Église. Donc la musique liturgique est extrêmement codée, ce qui veut dire qu'elle repose sur un ensemble de règles bien précises, qui ne sont pas explicites, on ne les perçoit pas à l'audition d'un chant, mais qui sont bien connues des compositeurs liturges. Et je vous conseille à ce propos de lire le livre « Retrouver la source oubliée » de Maxime Kovalevski, où il livre un peu de son alchimie liturgique du chant. Par exemple, cette musique traditionnelle est basée sur des tons liturgiques. Il ne faut pas croire que maintenant les liturges orthodoxes se mettent à table et se disent « Tiens, je vais composer un Notre Père comme ça », il se met au piano ou à la guitare, je ne sais pas, et commence à dire « Ah, c'est joli cette mélodie, voilà, c'est très bien ». Pas du tout. La musique liturgique est basée sur des tons précis. Et il y a exactement 8 tons. 8 tons grégoriens, 8 tons slavons, 8 tons grecs, etc. Et ces 8 tons, c'est de la musique qu'on appelle modale. Bon, on n'entrons pas dans les détails, mais ce sont des tons précis. Vous savez que dans les psaumes, nous prenons par exemple le ton 1. Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Ton 1. Ton 2, sol, la, sol, sol, do, na, na. Ton 3. Et tous les chants sont basés sur ces tons, c'est-à-dire c'est une échelle, si vous voulez, avec un départ, un milieu et une finale qui est propre à chaque ton. D'autre part, le chant liturgique est posé sur le souffle seul. C'est important. Le souffle, pourquoi le souffle? Roua, parce que c'est la manifestation à nous de l'esprit. Et donc cela exclut l'usage d'instruments de musique. Il n'y a pas d'instruments de musique dans l'Église orthodoxe. Pourquoi? Parce que les instruments de musique sont trop envahissants, trop présents. Et par rapport justement à cette voix humaine fondée sur le souffle. D'autre part, le chant, et ça c'est, on ne s'en rend pas toujours compte, privilégie la mélodie, l'harmonie? Non, la parole. C'est la parole qui est importante dans le chant liturgique. Ce n'est pas la mélodie, ce n'est pas l'harmonie. Et donc si, quelque part, vous ne pouvez pas chanter et vous êtes seul, à la limite, chantez-le de manière rectotono. Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Chantez, mais sans chercher à faire des inflexions mélodiques et sans chercher l'harmonie, surtout si vous êtes seul. D'autre part, le chant liturgique proscrit les effets sentimentaux, émotifs, faciles. Par exemple, les syncopes, les dissonances. Pourquoi? Pour sortir de notre psychisme envahissant. Je vais vous chanter de deux versions et vous sentirez la différence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Où est le chant liturgique? Le premier, bien sûr. Et le chant liturgique accorde beaucoup de place aussi, par exemple, à un principe qu'on appelle le principe d'alternance, que nous pratiquons tout le temps dans les offices, alternance homme-femme, alternance prêtre-diacre-chœur-fidèle. C'est donc un jeu, si vous voulez, un jeu chantant, où chacun a une intervention à faire. Et il est très dommage de gâcher cet ordonnancement du chant en disant « Ah, ça je connais, alors j'y vais ». J'ai déjà même entendu quelqu'un qui chantait avec le prêtre une fois, pas ici, mais je vous rassure, mais parce qu'on a tendance à se dire « Ah, je connais, c'est beau, alors on y va ». Mais non, là c'est le diacre qui le fait, non, là c'est le cœur, et là c'est vous les fidèles qui le faites. Et nous passons comme ça le relais de l'un à l'autre, et ça participe à la beauté du chant. N'oublions pas aussi que les chants doivent être beaux parce qu'ils sont le reflet, c'est la tradition qui nous l'enseigne, des chants angéliques. Vous savez que quand nous célébrons la liturgie sur terre, c'est le reflet de ce qu'on appelle la liturgie angélique, la liturgie du ciel. Et ces chants sont donc destinés à ouvrir notre oreille extérieure à la beauté et notre écoute intérieure à la parole divine. Et donc à nous rendre disponible. Je vous relate ici une petite phrase de Simone Veil qui un jour s'est retrouvée à l'abbaye de Solesmes et a été profondément touchée par la beauté des chants grégoriens et qui écrit, après les avoir entendus, « J'ai ressenti une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe des chants et des paroles. » Puissions-nous faire de même à la paroisse. Ça, c'était notre père de mort. Venons-en à la dernière partie. Il reste 10 minutes, c'est bien. Les icônes. Je ne dois pas vous en parler longtemps. Nous sommes tous imprégnés par la beauté des icônes. La beauté des icônes saute aux yeux. Malheureusement, je me suis aperçu que dans le transport, le Christ en avait pris un coup qui l'amoche légèrement, mais bon, nous l'avons vu aussi sans éclat ni beauté, je vous rappelais tout à l'heure. La beauté des icônes, c'est une beauté qui n'est pas purement terrestre, c'est une beauté d'un autre monde, celle du monde invisible, mais aussi celle du monde devenu, par l'incarnation du Christ, divino-humain. C'est la beauté de l'union du corps et de l'esprit, la beauté de la transfiguration de la matière. Et rappelons-nous que la représentation de Dieu dans la matière ne va pas de soi. Vous savez que dans la tradition juive, dans la tradition musulmane, elle est formellement proscrite. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu ne s'est pas incarné, selon ces traditions. Et donc, l'icône est fondée sur l'incarnation du Christ dans notre humanité. Et l'icône est avant tout la représentation du visage humain, divino-humain du Christ. Denis Rousseau, qui écrit un livre, un beau livre sur la icône splendeur de ton visage, dit « Si le christianisme a privilégié le visage, c'est parce que Dieu s'est fait lui-même visage et que l'homme est à l'image de Dieu. » Et comme l'écrivaient les pères, vous savez qu'il y a eu une terrible crise qu'on appelle iconoclaste au 6e, 7e siècle, 7e siècle plutôt, où les iconoclastes détruisaient les icônes en disant que c'était sacrilège de représenter Dieu. Ils n'avaient pas perçu une chose, c'est que Dieu s'était incarné, qu'on l'avait vu, qu'on l'avait touché, comme écrit Saint Jean dans son évangile, et qu'on pouvait donc le représenter. Et le concile à la fin du 7e siècle, qui a mis fin à l'iconoclasme, écrit ceci, « L'humanité de Dieu doit être montrée, de telle sorte qu'en la regardant, nous contemplions la gloire divine de Dieu le Verbe en son image humaine. » Et Saint Grégoire le Grand, pape de Rome, disait, « Le visage de Dieu est le seul pâturage où l'homme puisse se rassasier éternellement. » J'aime beaucoup cette image. C'est très matériel, mais c'est très beau. Ça rappelle les verts pâturages des négros spirituels. « Le pâturage des élus, poursuit-il, c'est le visage de Dieu, toujours présent. Puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. Et forcément, cette représentation du Christ dans l'icône ne peut être que belle. Imagine-t-on peindre un Christ laid, grimaçant, tordu? L'icône du Christ nous invite à contempler le visage transfiguré du Christ et à travers lui, celui du Père. Car n'oublions pas que le Christ a dit « qui m'a vu, a vu le Père ». Et saint Paul, nous voyons la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Et Vladimir Lossky définit l'icône comme le début de la contemplation face à face. C'est très fort, je trouve.
Début de quoi ?
De la contemplation face à face. Souvent, on reporte dans le monde après la mort la contemplation de Dieu, mais la contemplation de Dieu commence ici-bas, par la contemplation notamment de l'icône. Et Ludmila Garrigou, qui était iconographe dans l'Église orthodoxe de France, écrivait ceci, « On regarde un tableau, mais on prie devant une icône, car dans celle-ci, tout est fait pour que nous découvrions que nous sommes regardés par Dieu. Celui qui contemple l'icône fait corps avec elle. » Et donc, l'icône, par sa beauté, par sa lumière, qui est le reflet de la lumière incréée, d'ailleurs on parle des lumières sur les personnages, leurs vêtements, leurs visages, la perspective inversée aussi, la transfiguration de la matière qu'elle manifeste, la légèreté, la transparence, nous fait participer réellement à la présence divine. Il ne s'agit donc pas d'un art figuratif, mais d'un art transfiguratif. Et c'est fondamental. Elle nous montre que depuis l'incarnation du Verbe, la transfiguration du monde, de la matière et de nous a déjà commencé. Saint Jean de Kronstadt écrivait « Si un chrétien regarde souvent avec amour et piété l'image de notre Sauveur Jésus-Christ et de sa Mère très pure et des saints, son âme recevra les traits spirituels du visage amoureusement contemplé, douceur, humilité, miséricorde. Si nous contemplons souvent les images et surtout la vie du Seigneur et de ses saints, comme nous changerions, comme nous marcherions de hauteur à hauteur. » Saint Jean de Kronstadt. Et à propos de cette transformation, je vous propose un texte que Roselyne nous a proposé récemment. Je voulais bien le faire passer, nous allons le lire ensemble. Il parle justement de cette faculté de transformation, parce que nous sommes, dit Christiane Singer, l'icône de Dieu. Alors, j'attends que tout soit distribué. Tout le monde a le texte ? Grâce. Il n'y en a pas assez ? Ah. Normalement, il y en a 20, hein, je ne pense pas qu'on soit 20. Que chacun lise tout haut, un bout. Tu commences, Julien, Brigitte et puis Bernard.
Amis, vous êtes l'icône de Dieu.
Son manifeste, son image, sa vision. Le rôle de l'icône
est de laisser devenir celui que l'on ne peut toucher, de susciter le désir de le connaître, de transfigurer le réel.
Et de placer en son milieu l'étonnante lumière du tout autre.
amis, vous êtes l'écho de Dieu.
Vous le définez avec votre chair et votre sang.
Amen.
Avec votre sueur et vos langues.
Avec vos paroles et vos gestes, avec vos refus et vos révoltes. Avec vos amours et vos baisers, avec votre tendresse.
Sans fin, les mensonges, Dieu qui prie de Dieu. Ne vous prêtez pas.
J'écoute une vie entière pour qu'elle soit peinte.
Par quel temps elle demande de minutieux
pour la réunir souvent et pour contempler le modèle.
Jusqu'à ce que sur votre sac, son forêt sans lien.
Voilà. Je trouve que cette.
Je suppose que pour terminer, elle lit la première phrase, parce qu'on n'a pas fait compter.
Amis, vous êtes l'icône de Dieu.
C'est une iconographe. Voilà. Je trouve que ce texte fait bien le lien entre cette contemplation de l'icône, ce qu'on appelle l'icône, et nous-mêmes qui sommes icônes, qui sommes appelés à nous peindre, à nous laisser peindre, à nous laisser travailler, comme l'écrivait saint Irénée dans le beau texte tout à l'heure, par la main de Dieu, pour devenir non seulement image, mais ressemblance de Dieu. Alors je termine rapidement. Pourquoi l'icône nous touche-t-elle dans notre profondeur? Parce qu'elle veut montrer non pas l'apparence, le psychisme, le sentimental, les motifs, mais la vérité profonde des personnes et des choses représentées, leur intériorité, leur état transfiguré. Et n'est-ce pas finalement le sens, la finalité de la beauté, que de nous élever, de nous éveiller, de nous transformer, de changer notre regard et de nous porter à la louange, à la contemplation et à la gratitude. Je vous livre pour terminer un témoignage. Vous savez que de nombreuses personnes ont été bouleversées et ont commencé leur chemin spirituel en étant saisies par une icône. Eh bien, c'est le cas de Julien Green, un écrivain du début du XXe siècle, qui écrit ceci. « Je tombais sur la reproduction de la Vierge de Vladimir ». Avons là. L'effet sur moi fut immédiat. Je me trouvais devant une personne vivante qui me parlait. Ses yeux me parlaient. Je lus dans son regard, qui n'a jamais cessé de me hanter, tous les reproches de l'amour et une compassion presque surhumaine. Si quelqu'un pouvait me comprendre, c'était elle. Il ne peut évidemment y avoir de conclusion à cette trop brève approche de la beauté. Retenons simplement quelques enseignements fondamentaux. Toute beauté matérielle et spirituelle vient de Dieu et témoigne de son amour pour sa création. Deuxièmement, la beauté est un don divin, totalement gratuit, qui nous porte à rendre grâce, à contempler, à prier. Troisièmement, la beauté est indissolublement liée à la bonté, à la vérité et à l'amour. Et enfin, nous devons cultiver la beauté dans nos vies quotidiennes et dans l'Église, car elle nous fait réellement participer à la beauté de l'amour divin. Elle nous transforme et nous élève. Que vers lui, le beau Dieu, source de toute beauté, de toute vérité, de tout amour, s'élève notre action de grâce et notre gratitude.
Je veux bien vous dire la dernière fois, que vers lui.
Que vers lui, le beau Dieu, source de toute beauté, de toute bonté, de toute vérité, de tout amour, s'élève notre action de grâce et notre gratitude. Vous pouvez dire amen, si vous êtes d'accord. On peut rendre grâce.
Non, oui.
une audace aujourd'hui. Rendons grâce au Seigneur car il est beau.
Rendons grâce au Seigneur car il est beau. Sa miséricorde est éternelle. Comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Rendons grâce au Seigneur, car il est beau.